devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 29 septembre, il est 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Voilà, avec toute l'équipe de Radio Classique, nous aurions adoré disserter sur Cervantes et Caravage qui sont nés un 29 septembre. Mais plus prosaïquement, mon cher Marc Bourreau, nous allons commencer ce journal par un cri d'alerte. Il n'y aura pas suffisamment de bras dans les hôpitaux pour faire face à une seconde vague.
Oui, constat sans appel d'Arnaud Chiche, réanimateur dans les Hauts-de-France, fondateur du collectif Santé en danger. Actuellement, la France compte 6000 lits de réanimation et pourtant, on frôle déjà la surcharge des opérations déprogrammées à Marseille. Une situation qui se tend de jour en jour à Paris. Le personnel hospitalier s'attend à une nouvelle mise à l'épreuve comme au printemps. Sauf que cette fois, prévient Arnaud Chiche, tout le monde est sur les rotules.
Il y a des services de réanimation qui sont arrêtés de travailler en réanimation. Il y en a qui sont encore en arrêt de maladie parce qu'ils sont tombés malades. Il y en a qui ont décidé de changer de service. On est moins fort qu'en mars. Bientôt, Olivier Véran, il va dire qu'il a besoin d'infirmiers en réanimation. Alors moi, je vais expliquer à Olivier Véran que pour former une infirmière et un aide-soignant en réanimation, il faut 6 mois. Et qu'en fait, il aurait fallu commencer en mars. Mais ils n'ont rien fait. Vous savez ce qui va se passer? Je vais vous dire ce qui va se passer. Et bien, le personnel qui sait faire, et bien, il va travailler 2 fois plus. C'est un scandale.
Et la colère d'Arnaud Chiche au micro de Rémi Pfister. L'épidémie continue de circuler activement. 4000 malades en 24 heures, 81 décès supplémentaires dans les hôpitaux. Le taux de positivité grimpe ce matin à 7,5%.
Et alors que l'Europe se prépare, mon cher Marc, à une seconde vague, un pays fait figure d'exception.
Et c'est l'Italie.
Parlons du Caravage,
exactement.
L'Italie.
L'Italie, oui. Comment l'un des pays les plus touchés au printemps, Guillaume, printemps dernier, est-il devenu le bon élève du continent? En France, la barre des 10 000 cas quotidiens régulièrement franchie, elle n'excède pas les 2 000 de l'autre côté des Alpes. Rémi Pfister, la différence vient peut-être de mesures bien plus drastiques que chez nous.
Il faut dire que les Italiens ont été traumatisés par la première vague qui les a touchés au printemps avec près de 30 000 morts entre mars et avril. À Bergame, notamment, des images d'hôpitaux désemparés et des cercueils qui s'entassent ont marqué les esprits. Désormais, les mesures sont très restrictives et la population s'y tient. Port du masque obligatoire 24 heures sur 24, distanciation sociale respectée. Dans les bars et les restaurants, chaque personne doit remplir un formulaire avec ses coordonnées pour pouvoir être avertie en cas de besoin. Cette politique de traçage va de pair avec la politique de test et ça fonctionne. Plus des 2/3 des Italiens qui ont été testés positifs ne présentaient aucun symptôme mais ont été identifiés comme cas contact. Les tests qui concernent également les étrangers pour éviter que le virus ne revienne par les aéroports. Les passagers en provenance de France, d'Espagne ou encore de Grèce sont testés à l'arrivée.
Les précisions de Rémi Pfister.
Le gouvernement temporise sur les nouvelles restrictions dans les bars et les restaurants.
Jean Castex, le Premier ministre, et Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, reçoivent aujourd'hui les professionnels du secteur à Matignon. À Marseille, les professionnels dénoncent une dictature sanitaire. Après la fermeture totale des bars et des restaurants pour 2 semaines, le recours administratif en référé du président de la région PACA sera examiné cet après-midi à 15h. Dans 11 autres villes, dont Paris. Là, ce sont les bars qui doivent désormais fermer depuis hier soir à 22h. La présidente de la région Île-de-France interpelle l'État. Les mesures d'aide pour les établissements franciliens sont pour l'heure insuffisantes, estime Valérie Pécresse.
Nous avons eu la double peine. Une saison absolument catastrophique cet été, alors que tout le reste de la France avait une très belle saison touristique. Et maintenant, cette deuxième vague, la région Sud a obtenu une clause de revoyure dans 1 semaine. Nous demandons la même clause de revoyure. La région Sud a obtenu aussi que les pertes de recettes soient compensées. Ça ne sera pas le cas en Île-de-France. Hein. Les seuils de 80% de pertes de recettes sont trop élevés. Nous demandons qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus fort et on veut être associé à la gestion de la crise.
Des propos recueillis par Victoire Fort. Premier budget sous l'ère Covid pour la sécurité sociale. L'exécutif en présente les grandes lignes ce matin. La crise sanitaire va peser lourd. Le trou de la Sécu devrait se creuser de 25,5 milliards d'euros supplémentaires en 2021.
Avant la sécurité sociale, le gouvernement présentait hier son projet de loi de finances de crise pour l'an prochain. Nous recevrons tout à l'heure le célèbre économiste Patrick Artus.
Et le gouvernement a notamment donné des détails sur le fameux plan de relance. 42 milliards d'euros seront investis dès 2021. Il y a aussi les gagnants et les perdants de ce budget. Près d'1,5 milliard d'euros en plus pour l'éducation nationale. Une partie servira à une revalorisation salariale. 400 millions d'euros pour les enseignants l'an prochain, notamment les profs en début de carrière et les directeurs d'école. En attendant les concertations, les modalités inquiètent déjà les syndicats. Sophie Vénétité est la secrétaire générale adjointe du SNES. FSU.
Jean-Michel Blanquer lui-même disait que ça allait représenter quelques dizaines d'euros pour les jeunes enseignants. Aujourd'hui, les jeunes enseignants, quand ils commencent, ils sont éligibles à la prime d'activité pour lutter contre la pauvreté. Donc c'est pas avec quelques dizaines d'euros qu'on va vraiment améliorer les choses. On a aussi cette crainte que ça soit en contrepartie de nouvelles missions, du remplacement, bref, travailler plus pour mériter, entre guillemets, cette revalorisation. Donc c'est aussi quelque chose qu'on dira au ministère. Il faut augmenter les profs, mais sans contrepartie.
Sophie Vénétité avec Émilie Vallès. Des enchères dans un climat de défiance. Coup d'envoi tout à l'heure de l'attribution des premières fréquences 5G. Orange, Bouygues, SFR, Free espèrent une première commercialisation de la technologie d'ici la fin de l'année.
Ouais, on en parlera tout à l'heure donc avec David Barou à la fin du journal. La suite.
Emmanuel Macron va rencontrer Svetlana Tikhanovskaya. Le président est arrivé hier en Lituanie où l'opposante biélorusse est en exil. Elle appelle Paris à jouer les médiateurs avec l'autoritaire président Loukachenko. La guerre à 4 heures de vol de Paris. Réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui consacrée au Haut-Karabagh, cette région à majorité arménienne d'Azerbaïdjan. Plus de 80 soldats sécessionnistes ont été tués ces derniers jours. Enfin, Guillaume, aux États-Unis, Cleveland aura des airs de ring la nuit prochaine. Premier face à face entre Joe Biden et Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche à 35 jours maintenant de la présidentielle.
On en parlera tout à l'heure avec Laurent Saï, mais vous avez dans tous les journaux ce matin, évidemment dans la presse américaine et même dans les journaux français par exemple, Le Parisien place au choc Trump-Biden, donc débat qui promet ou qui est annoncé comme plutôt violent. On termine par cette drôle d'opération de sauvetage en cours dans les Alpes.
Oui, Guillaume, des milliers de moutons sont coincés actuellement près du col de Glandon. C'est en Savoie, 6 troupeaux, hein, rien que ça. Et leur berger, surpris par de brutales chutes de neige le week-end dernier, Rémi Vallès, une cellule de crise a même été mise en place dès dimanche pour secourir les animaux.
Depuis vendredi dernier, ce sont 6000 moutons qui sont pris au piège là-haut, à 1900 mètres d'altitude. Et tout s'est passé extrêmement vite, raconte Christian Frasson-Botton, conseiller municipal du village de Saint-Colombon-des-Villars.
Il y a eu de fortes chutes de neige avec une température de moins 6 et un vent violent qui a même formé des congères de 2 mètres de haut. Donc le site était isolé. Et il peut y avoir des coups de neige à cette époque, ça c'est normal. Mais de mémoire d'ancien, il n'y a pas eu de crise météorologique depuis 1974.
Une météo extrême qui menace la survie des moutons. Certains n'ont pas mangé pendant près de deux jours. La mairie de Saint-Colombon-des-Villars déclenche donc son plan de sauvegarde pour ravitailler les bêtes. 6 tonnes de foin sont acheminées tant bien que mal. Il reste encore à évacuer les animaux. Pas une mince affaire.
D'abord, il faut réunir plusieurs bergers. Et puis ensuite, il faut trier les bêtes, les parquer et puis surtout les conduire jusqu'au camion qui se trouve dans la vallée. Ça demande 4 à 5 heures de marche pour atteindre les camions et donc partir vers la Provence. Comme il faut une journée pour évacuer un troupeau, ça risque d'atteindre la semaine, oui.
Mais avec les loups qui rôdent tout près et la météo très incertaine des jours à venir, l'opération sauvetage pourrait bien se transformer en course contre la montre.
Rémi Vallès, enfin pas de neige, mais de la grisaille, de la pluie hier à Roland-Garros.
Ah, c'est pas gai. Hein.
Ouais, c'était pas gai, ça passe sans problème pour le... au premier tour pour Raphaël Nadal. Ça casse en revanche pour Gaël Monfils. Corentin Moutet sorti aussi après un marathon de 6 heures face à l'Italien Giustino. Et à suivre aujourd'hui, Guillaume, l'entrée en lice de Kristina Mladenovic, Gilles Simon et Richard Gasquet.
Il est 16h38, souvenez-vous mon cher Marc, puisque justement le Parisien s'intéresse au débat américain, ce sera la nuit prochaine, nous serons évidemment en direct avec Laurence. Vous vous souvenez qu'à un moment, donc Donald Trump, lors d'un des débats, s'était levé, avait tourné autour d'Hillary Clinton au moment où elle l'accusait de ses relations pour le moins contestées avec les femmes. Trump lui avait répondu concernant son mari à elle, à savoir Bill Clinton. Tout était d'une violence extrême, d'où le pronostic des journaux ce matin. Ce sera violent. Mais souvenez-vous, ce débat donc Trump-Clinton d'octobre 2016.
Far worse, minor words, and his was action.
Regardez Bill Clinton, ses actes sont bien pires que les miens. Ses mots, son comportement, personne n'a jamais abusé autant des femmes que lui dans l'histoire politique de ce pays.
You can say any way you want to say it, but Bill Clinton was abusive to women.
Voilà, la violence, évidemment, des relations entre les deux candidats à la présidence américaine. On n'a jamais vu ça. Dans un débat français, il m'est même arrivé d'y participer. Non pas à ces violences, mais à ces débats français qui sont quand même beaucoup plus policés. 7h39, voici les spécialistes. Nous allons parler de politique et d'économie.